avec un talent extraordinaire de metteur en scène formidable. Il m'explique son histoire comme quoi, dès qu'il était né, de fille qu'il était, on l'avait habillé en garçon. Et il avait ajouté, et pourquoi je joue si bien les rôles de femme? C'est parce que, en réalité, je suis une femme, mais je ne peux pas le dire.
Bonsoir, il arrive que le crime avance parfois fardé, maquillé, perruqué et chante des airs d'opéra avec un accent exotique. Il arrive aussi que la chanteuse soit un chanteur, que Madame Butterfly soit en quelque sorte un Monsieur Butterfly et cache un profil d'espion. C'est cette histoire qui dépasse l'imagination, hors norme et spectaculaire, que nous avons choisi de raconter ce soir, celle de la chanteuse chinoise Shi Pei Pu et du diplomate français Bertrand Boursicot. Comment ce dernier a été pendant une vingtaine d'années abusé par celle qu'il croyait être une femme et qui était en fait un homme, piégé par amour. Bertrand Boursicot a trahi son pays en livrant des documents confidentiels au service d'espionnage chinois. Scénario invraisemblable, mais pourtant bien réel, qui reste aujourd'hui encore l'une des plus spectaculaires histoires d'espionnage. Un travestissement érigé en œuvre d'art qui va permettre aux autorités chinoises de récupérer des dizaines de documents classés confidentiels jusqu'à ce que ce troublant manège ne soit mis au jour par le contre-espionnage français et que le véritable sexe de la chanteuse ne soit révélé aux yeux du monde.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire de la chanteuse d'opéra et du diplomate. Affaire qui se transformera des années plus tard en scandale sur fond d'espionnage et qui débute au milieu des années 60 à Pékin. Quelques jours avant la Noël 1964, la toute nouvelle ambassade de France à Pékin donne une grande réception. Paris a reconnu il y a seulement quelques mois la République populaire de Chine et son leader Mao Tse-tung. Les relations sont plutôt beau fixe. Ce soir-là, c'est l'émissaire du général de Gaulle, en personne Claude Chaillet, qui reçoit ses hôtes. Le tout Pékin politique, intellectuel et artistique est invité. Le personnel de l'ambassade est également convié à cette soirée chaleureuse où les bavardages couvrent le bruit des coupes de cristal. Au milieu de cette assemblée, Bertrand Boursicot ne semble connaître personne. Il a 20 ans, il est un simple employé des services consulaires, affecté à des tâches administratives. Au cours du cocktail, il fait la connaissance d'un jeune homme qui porte le costume Mao et avec qui il a immédiatement sympathisé. Alors que Boursicot ne parle pas un mot de chinois, cet invité parle parfaitement le français. Une silhouette très fine, des traits féminins, un garçon maquillé qui dit avoir 26 ans et s'appelait Shi Pei Pu. Ce Shi Pei Pu n'est pas un inconnu de la communauté française. Il se présente comme artiste lyrique, auteur de livres et d'opéras et professeur de chinois. Les épouses des diplomates raffolent de sa compagnie. Il n'y a pas mieux que lui pour donner des conseils de maquillage, de coiffure ou choisir telle ou telle tenue. Sa voix aussi fait sensation. Elle n'est absolument pas grave pour un garçon et convient parfaitement à certaines pièces lyriques. Shi Pei Pu connaît le tout Pékin, a su gagner la confiance des uns et des autres et fait figure d'invité récurrent de l'ambassade. Pour Bertrand Boursicot, cette rencontre est la bienvenue. Il a beau faire partie du personnel diplomatique, personne ne lui parle, peut-être en raison de son rang alors subalterne. Boursicot, fils d'un comptable et d'une couturière de Vannes, a juste son BEPC, son brevet d'études en poche, même pas le bac. C'est avec ce seul diplôme qu'il a été recruté par le Quai d'Orsay. Il est arrivé à Pékin le 24 octobre après avoir eu l'autorisation de sortie de territoire signée par ses parents, la majorité étant alors fixée à 21. Non, le chanteur Shi Pei Pu est très loin de le laisser indifférent. De sourire en plaisanterie, le courant passe entre les deux jeunes hommes. Aucun doute là-dessus, ces deux-là sont appelés à se revoir. Le petit employé consulaire Bertrand Boursicot n'est pas indifférent au charme de Shi Pei Pu. Mais il s'agit d'un homme. Le français hésite à se lancer dans une romance. Une révélation va le faire changer d'avis. Le jeune employé d'ambassade Bertrand Boursicot retrouve fréquemment le chanteur Shi Pei Pu pour des dîners dans des restaurants de Pékin. Le jeune artiste lui fait découvrir les parcs de la ville, lui apprend des expressions locales, lui montre la cité interdite. Shi Pei Pu est un guide et un ami. Pas de romance en vue pour l'instant, pas de flirt. Le fait qu'il s'agisse d'un homme freine quelque peu les ardeurs du français. Celui-ci d'ailleurs ne va pas s'éterniser en Chine. Il s'ennuie en l'ambassade où il ne parvient pas à se faire derrière une place et des relations, et où il ressent presque une ambiance hostile. Au mois de mai 1965, Boursicot annonce donc à Shi Peipu qu'il va quitter le pays. Il a demandé une autre affectation. Le chanteur chinois lui fait alors une extraordinaire déclaration. Il n'a jamais été un homme, il est une femme. Shi Peipu raconte que ses parents l'ont élevé comme un garçon et l'ont toujours présenté ainsi pour la raison suivante. Ils avaient déjà eu deux filles. S'ils avaient avoué que leur troisième enfant était également une fille, son père aurait dû prendre une seconde épouse pour assurer une descendance masculine. Car ainsi le veut la tradition chinoise. Shi Peipu fait donc semblant d'être un garçon. Après cette révélation, Bernard Boursicot, qui brûlait déjà de passion pour Shi Peipu, est ivre de joie. Il peut donc, sans crainte, s'engager dans une liaison, même s'il va falloir être prudent et discret. Les relations entre Chinois et Occidentaux sont prohibées et peuvent même conduire à la prison pour les autochtones. Boursicot n'a aucun doute sur le sexe de Shi Peipu, chanteuse et non-chanteur. Sa voix, ses manières, ses gestes, ses mains si fines, son goût pour le maquillage ne trompe pas. Les ébats intimes qui suivent confortent le jugement de l'employé consulaire. Il se déroule dans la pénombre. Shi Peipu est le plus souvent drapé d'un voile, se dit trop pudique pour dévoiler son intimité. C'est elle qui guide toujours l'étreinte. L'amant français doit se laisser faire. Ce dernier n'est pas surpris. Il pense que ce genre de relation dans l'obscurité est dans les mœurs chinoises. Il est même convaincu qu'il a défloré sa maîtresse puisque lors de leur première relation, une goutte de sang a glissé le long de sa cuisse. La relation secrète entre Bernard Boursicot continue de plus belle. Fin 1965, alors que le Français est désormais sur le point de quitter Pékin, Shi Peipu lui annonce qu'elle est enceinte. La chanteuse dit qu'elle va avorter, mais son amant lui demande de garder l'enfant. Dans quelques mois, alors en poste à Jeddah, en Arabie Saoudite, il apprendra qu'il est le père d'un petit garçon, Shi Dudu. Bernard Boursicot va revenir quelques années plus tard en Chine avec l'espoir de voir enfin son fils, Shi Dudu, et bien sûr de retrouver l'amour de sa vie, Shi Peipu. Les retrouvailles vont être très particulières. En septembre 1969, Bernard Boursicot revient à l'ambassade de France à Pékin en qualité d'archiviste. Le pays est alors bouillonnant, en pleine révolution culturelle. La police est omniprésente et les gardes rouges règnent. Difficile de pouvoir renouer le lien avec Shi Peipu et encore plus de réussir à l'approcher. Elle lui fait savoir que leur fils n'est pas à Pékin, mais dans une province éloignée, le Yunnan. Shi Dudu est là-bas en sécurité chez des paysans. Impossible de le voir, c'est beaucoup trop dangereux en ce moment. Boursicot obtempère, il patientera en tout et pour tout 7 ans avant de pouvoir rencontrer ce mystérieux enfant. Le couple clandestin se retrouve tous les 15 jours jusqu'à ce qu'il soit dénoncé. La chanteuse va alors passer quelques jours dans un poste de police, puis va être relâchée. La liaison est des plus compliquées. C'est à ce moment-là que Shi Peipu lui présente un homme qui peut les aider, un certain Kang, francophone, qui travaillerait pour la ville de Pékin. Kang et l'un de ses amis, Zhao, prennent alors en main la destinée de Bernard Boursicot. Pour que la liaison se perpétue avec sa maîtresse, il doit s'initier aux préceptes du maoïsme et au petit livre rouge. Boursicot est d'un naturel curieux. Il s'y plie de bonne grâce et fait preuve de très bonne volonté. Pour prouver sans doute qu'il est coopératif et veut faire plaisir à ses amis, il remet de sa propre initiative, dira-t-il, une enveloppe scellée, volée sur le bureau d'ordre de l'ambassade. Il ne s'agit pas d'un document de très haute importance, mais le Français est persuadé que ce geste permettra d'assurer la sécurité de sa maîtresse et de leur fils. Sur ce point, le rapport de la Direction de surveillance de la surveillance du territoire, la DST, l'ancêtre en quelque sorte de l'actuel DGSI, indique « Ainsi commença la collaboration de M. Boursicot avec un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur chinois ». Kang et Zhao sont effectivement des fonctionnaires du Diao Shabu, le service de renseignement du comité central du Parti communiste. Ils appartiennent, selon les notes du renseignement français, à une section spéciale chargée de recruter et de compromettre des étrangers en poste en Chine. Même s'il n'est pas un diplomate de premier plan, Bernard Boursicot les intéresse car il est employé du bureau d'ordre de l'ambassade. Il est plus spécialement chargé de détruire le courrier. Il n'a donc à ce poste aucune difficulté à détourner tel ou tel pli. Jusqu'en 1972 et son deuxième départ de Chine, Boursico fournit 3 fois par semaine des documents. Les Chinois lui demandent tout ce qui concerne leur ennemi juré, l'URSS. Par zèle, il arrive même à Boursico de fouiller la valise diplomatique. Il y subtilise un jour une lettre du prince Sihanouk du Cambodge et se fait sermonner par ses agents traitants avec ces mots « Le prince Sihanouk est un ami de la Chine, remettez immédiatement ce pli à sa place, camarade ». Bernard Boursico va quitter la Chine en 1972. Il est appelé à d'autres fonctions, à d'autres postes. Mais il ne va pas cesser pour autant d'aider ses nouveaux amis, histoire que Shi Peipu soit en sécurité. Après avoir quitté la Chine pour occuper des postes à Dublin, puis à Paris, Bernard Boursico revient pour un voyage privé de 2 mois. Il a l'autorisation de découvrir enfin Shi Dudu, son fils qui portera le prénom français de Bertrand. C'est un enfant de 7 ans, un Ouïghour d'originaire de la province du Xinjiang. Bertrand ne parlait pas français. J'ignorais ce que Shi Peipu pouvait bien lui raconter. J'ai su qu'il m'appelait l'oncle de l'avion, racontera Boursico au journal Vanity Fair. Dans les années qui suivent, le français revient en Asie. Cette fois, il est archiviste chiffreur à Oulan-Bator, l'ambassade de France en Mongolie, l'une des moins favorisées de la diplomatie. Des locaux ouverts aux 4 vents, peu ou pas de sécurité. Quand l'hiver arrive, toute l'équipe va vivre à Pékin à cause du froid. Grâce à son poste, Bernard Boursico peut continuer à alimenter les services de renseignement chinois. Il leur adresse à peu près tout ce qui se présente. Des synthèses sur l'armée soviétique, des informations sur le voyage du président Nixon à Pékin, tout comme une note sur la fourniture d'un seau à glace à l'ambassade. C'est dire si le spectre est large. Au mois de mars 1981, Bernard Boursico quitte la région. Il rentre en France où il va intégrer le Quai d'Orsay. Un an plus tard, octobre 1982, Shi Peipu le rejoint à Paris avec leur fils Bertrand Shi Dudu. Personne ne sait vraiment comment la chanteuse a obtenu l'autorisation de séjourner en France. Son arrivée, dans tous les cas de figure, ne passe pas inaperçue. Dans les milieux culturels, elle est présentée comme une vedette de l'opéra de Pékin. La DST s'intéresse alors à cette artiste qui visite assidûment l'ambassade de Chine en France, avenue Georges V à Paris. Les policiers du contre-espionnage voient en elle une parfaite agente de Pékin. Ils tiquent encore davantage quand ils s'aperçoivent que Shi Peipu occupe un studio au numéro 93 du boulevard du Port-Royal à Paris, logement appartenant à un agent consulaire sur le point de devenir pleinement diplomate, le dénommé Bernard Boursico. Le 30 juin 1983, Bernard Boursico est arrêté avenue Bosquet à Paris et conduit dans les locaux de la DST. Il est inculpé pour intelligence avec une puissance étrangère. Arrêté une semaine après, Shi Peipu nie tout acte d'espionnage. Elle révèle toutefois qu'elle n'est pas une femme, mais un homme. Le juge désigne des médecins pour l'examiner. Aucun doute, ce suspect est bien un homme avec des organes génitaux en bonne et due forme. Bernard Boursico ne veut pas y croire. Il n'en revient pas. Quand il croise Shi Peipu au dépôt du palais de justice, il lui demande de se déshabiller. C'est bien un homme. Le diplomate fera peu après une tentative de suicide. Bernard Boursico et Shi Peipu vont être tous deux renvoyés devant la justice. Ils devront alors s'exprimer publiquement sur leur liaison. L'employé d'ambassade devra dire pourquoi il n'a jamais su que la femme avec qui il dormait était un homme. Ce 5 mai 1986, les amants espions se retrouvent dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Cour jugeant une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et donc exclusivement composé de magistrats, 7 au total. Bernard Boursico est en costume gris. Shi Peipu ne va être poudré et perruqué que le premier jour seulement. Le président Xavier Versini ne comprend pas pourquoi Boursico ne s'est pas aperçu de cette supercherie sexuelle. Au lit, ça se passait comment ? Demande le président. Le français répond : on s'embrassait dans le noir, furtivement, il me guidait pour le pénétrer. Quant à cette histoire d'enfant, je ne suis pas allé vérifier, je n'ai jamais vu son sexe complètement, il était très pudique. La DST voit en Bernard Boursicot un homme fragile. Sa défense indique qu'il n'a transmis aucun document capital mettant en danger la sécurité de la France. L'avocat général affirme que Chipeipou est un acteur qui a embrigadé le diplomate du grand théâtre, du grand guignol, dit-il. Le verdict tombe, 6 ans de prison pour chacun des accusés. Bernard Boursicot va passer 3 ans en prison à Fresnes et 10 mois à la centrale de Melun. Il se fera ensuite oublier et continuera à voyager. Chipeipou, lui, libéré avant l'ouverture du procès pour raison de santé, est gracié 1 an plus tard par le président Mitterrand. Un geste sans doute pour faire plaisir aux Chinois. Chipeipou va rester à Paris, enseignant les arts de l'opéra de Pékin jusqu'à sa mort en 2009 à 70 ans. Leur fils Bertrand Chi Dudu restera également en France, où il fondera une famille.